إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حمد الله وإياكم منها. عباد الله نواصل بعون الله تبارك وتعالى دروسنا في شرح منهج السالكين والتوضيح الفقه في الدين لشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله على شرح الشيخ سليمان ابن عبد الله القصي حفظه الله تعالى. وما زلنا في كتاب القضايا والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. فقال المؤلف رحمه الله: فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي، فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به، أي إذا امتنع المدعى عليه من الحلف فإنه ترد اليمين على المدعي. والمؤلف عبر عن هذه المسألة بقوله أو، ولعل مفادها تخيير القاضي بأن يحكم بالنكول فقط إذا رجح له صدق المدعي أو يطلب منه اليمين إذا لم يترجح له صدقه. ومذهب جمهور العلماء على عدم رد اليمين إلى المدعي، فذهب بعض العلماء إلى أن للقاضي رد اليمين على المدعي لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، أخرجه الدارقطني والبيهقي وصححه الحاكم. وقال ابن حجر في تلخيص فيه محمد ابن مسروق لا يعرف وإسحاق ابن الفرات مختلف فيه. وعن شعبي أن المقداد ابن الأسود استقرض من عثمان 7000، فلما طلبها منه قال إنما هي 4000، فخاصمه إلى عمر، فقال عثمان أقرضته 7000، وقال المقداد تحلف أنها 7000، فقال عمر قد أنصفت، فأبى أن يحلف فقال خذ ما أعطاك، أخرجه البيهقي. وقال ابن حجر في الدراية إسناده صحيح عن الشعبي. طيب نحن نبدأ بإذن الله عز وجل explication de منهج السالكين basé sur le شرح الشيخ سليمان القصير حفظه الله تعالى. نعم. Et nous sommes toujours dans le chapitre donc des affaires judiciaires, des plaintes, des preuves et des formes de témoignages. طيب. Donc il dit l'auteur رحمه الله تعالى. نعم. Que s'il n'y a pas de preuves, eh bien, l'accusé devra prêter serment de son innocence, par rapport à son innocence, pour être acquitté. Et s'il refuse, donc il fait preuve de nukul, qui est un terme qui désigne le fait de refuser, justement, de jurer et de prêter serment sur son innocence. Voyez. Donc on avait vu cela la semaine dernière. Aïna'am. Donc s'il prête serment, alhamdoulilah, il sera acquitté. Taïeb. Car s'il ne le fait pas, eh bien le juge pourra trancher en faveur du plaignant. en faveur du plaignant, comme on l'a vu dans le hadith que l'on a mentionné la semaine dernière, celui rapporté par l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, dans lequel on a donc l'histoire avec Abdullah ibn Umar, qui avait vendu un esclave, etc. Puis dit l'auteur, rahimahullah, donc si il refuse de prêter serment, on tranchera en faveur du plaignant, ou alors on retournera l'obligation de prêter serment au plaignant. Et si le plaignant donc accepte de prêter serment alors que l'accusé refuse de le faire, eh bien le plaignant pourra prendre ce qu'il prétend être son droit. Taïeb. Donc il dit ici le Cheikh Salaiman Hafidhahullah Ta'ala, lorsque l'accusé se refuse de prêter serment, eh bien on demandera au plaignant de le faire à sa place. Donc ici l'auteur rahimahullah ta'ala, Cheikh Sa'di rahimahullah, il a utilisé le terme aw. D'accord? Le terme aw, yani ou. C'est-à-dire si l'accusé refuse de le faire, on tranchera en faveur du plaignant ou on retournera la demande de serment au plaignant. Donc le ou ici peut nous faire comprendre que le juge pourra ne pas demander l'obligation au plaignant de prêter serment. Donc il se peut que du simple fait que l'accusé refuse de prêter serment et que le juge voit que le plaignant est quelqu'un de véridique, eh bien il pourra trancher en faveur du plaignant, même sans demander au plaignant de prêter serment à son tour. Ou alors, si la véracité du plaignant ne lui est pas claire et évidente, le juge pourra, dans ce cas, lui demander à son tour de le faire, et en est de prêter serment. Mais la majorité donc, des savants, il faut savoir que la majorité des savants sont d'avis qu'on n'est pas obligé de retourner le serment au plaignant. Mais certains, parmi les ulama, ont dit que le juge a le droit de demander que le plaignant prête serment sur sa véracité et sur la véracité de ce qu'il prétend. Et cela par rapport au hadith d'Ibn Umar, radiyallahu anhuma, qui a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a retourné le serment au demandant, et au plaignant, à celui qui demande son haq, son dû. Donc le hadith rapporté par Dharqutni al-Bayhaqi, authentifié par l'imam al-Hakim et Ibn Hajar, a dit dans Talkhis qu'il y a dans la chaîne de narration Muhammad ibn Masrour qui n'est pas quelqu'un de connu, ainsi que Ishaq ibn al-Furat, sur lequel les savants du hadith ont divergé. Et également selon Al-Sha'bi, rahimahullah ta'ala, qui a rapporté que Al-Miqdad ibn al-Aswad a emprunté de l'argent à Uthman, radiyallahu anhuma. Et il a emprunté à Uthman 7000 dirhams. Tayyib, 7000 dirhams. Et lorsque Uthman donc, lui a demandé de lui rendre ces 7000, Al-Miqdad radiyallahu anhu, il a dit je te dois seulement 4000. D'accord? Il a emprunté, il dit ici à Sha'bi que Al-Miqdad il avait emprunté de Uthman combien? 7000. Et lorsque Uthman lui a demandé de lui rendre, il lui a dit il lui a rendu seulement 4000. D'accord? Yani, il lui a dit que il lui avait emprunté 4000 et non 7000. Et donc, Uthman est parti donc voir Omar, radiallahu anhu, pour lui faire part de ce litige. Et Uthman, donc, de dire à Omar, je lui ai prêté 7000. Je lui ai prêté 7000 dirhams. Et Al-Miqdad, de dire, prête serment, yani jure sur Allah que tu m'as bien prêté 7000. D'accord? Al-Miqdad, il lui a dit à Uthman, dans ce cas-là, prête serment, jure sur Allah ta'ala, que tu m'as prêté 7 000 et pas 4 000. Et Omar, d'approuver et de dire donc à Al-Miqdad, yani, tu as fait preuve de sagesse et de justice. Et Uthman a refusé. Uthman, radiallahu anhu, il a refusé de prêter serment à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Omar? Eh bien, il a jugé, il a tranché en faveur de qui? Du coup? Al-Miqdad. Et il a dit à Al-Miqdad, ou plutôt il a dit à Uthman, prends ce qu'il t'a donné. Et prends les 4 000. Prends les 4 000, wa khlas. C'est bon? Donc, le hadith rapporté par Al-Bayhaqi. Et Ibn Hajar, il a dit donc que ce hadith, sa chaîne de transmission, elle est authentique selon l'imam Al-Sha'bi. Rahimahullah ta'ala. Voilà. C'est clair? Alhamdulillah. Wa min al-bayyinah al-qarinah ad-dallatu ala sidqi ahad al-mutada'iyayn. Mithlu an takuna al-'ayn al-mudda'a biha bi yad ahadihima fa hiya lahu bi yaminihi. Tayyib. Fa hiya lahu bi yaminihi. Li'anna adh-dhahir min al-yad الملك وهذا إن لم يوجد بينة لمن كانت العين بغير يده فإن وجدت له بينة فهي له لأن البينة أقوى من القرينة وإن لم توجد لكليهما بينة فالعين المتنازع عليها لمن هي بيده بيمينه لحديث وائل ابن حجر رضي الله عنه قال جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينه؟ قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله إن الرجل الفاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء فقال ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض أخرجه مسلم. طيب. Puis dit l'auteur ici, rahimahullah ta'ala. Parmi les al-bayyina, parmi les preuves, ou parmi les indications qui peuvent faire pencher la balance pour l'un des deux parties en cas de litige, on a ce qu'on appelle al-qarina. Al-qarina, l'indice. Al-qarina, c'est un indice. D'accord? Un indicateur qui va indiquer la véracité ou qui va faire pencher la balance en faveur de l'un des deux parties. Exemple. Lorsque on a le bien ou l'objet ou la propriété au sujet de laquelle les deux parties se disputent, et sont en divergence, et que ce bien-là, cet objet, est entre les mains de l'un des deux parties. Yani, il est en possession, yani, physiquement, il est en possession de l'un des deux parties. Il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, eh bien ce bien-là lui appartiendra lorsque il prêtera serment, il jurera sur Allah tabaraka ta'ala, que cet objet lui appartient. Est-ce que c'est bon? D'accord? Donc on a deux parties. On a deux parties qui se disputent l'appartenance d'un bien. C'est bon? Et ce bien-là, à ce moment-là, est en possession de l'un des deux parties qu'il a, donc qu'il possède chez lui. D'accord? Eh bien, s'il n'y a pas de preuve, Il faut savoir que on va avoir recours plutôt aux indices. Et parmi les indices, le fait que ce bien-là soit entre les mains de l'un des deux parties et que celui qui l'a en sa possession en ce moment-là prête serment. Il prête serment en disant que ce bien-là lui appartient. Dans ce cas-là, il restera en sa possession, car c'est ce qui est apparent et probable. D'accord? Le fait que la personne l'ait entre ses mains, il est bien sûr fort probable que ce soit à lui s'il n'y a pas de preuve qui montre le contraire. Vous voyez? Donc s'il n'y a pas de preuve en faveur de celui qui ne l'a pas en sa possession en ce moment-là, eh bien, la personne qui l'a pourra prêter serment et le bien sera jugé comme étant à lui et sa propriété. Si le plaignant qui n'a pas ce bien en sa possession prétend que c'est à lui, il faut qu'il ramène une preuve. S'il a une preuve, walhamdulillah, eh bien il pourra récupérer son bien. D'accord? On ne va pas avoir recours à l'indice, parce que la preuve, elle bayyina, la preuve est plus forte que l'indice. D'ailleurs. Mais s'il n'y a pas de preuve, ni pour l'un ni pour l'autre, eh bien le bien sur lequel les deux se disputent sera laissé à celui qui l'a entre les mains, bien sûr, à condition qu'il prête serment et qu'il jure sur Allah tabaraka wa ta'ala que ce bien est bien à lui. Est bien à lui. C'est bon? Khlas. Et c'est là en vertu du hadith de Wa'il ibn Hujr, radiyallahu anhu, qui a dit: un homme de la province de Hadramaut, au Yémen, vint, et un autre homme de la province de Kinda, au Yémen, vint également voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc les deux sont arrivèrent pour se plaindre auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui venait de Hadramaut, ou Hadramaut, il a dit: ô messager d'Allah, ceci, yani cette personne qui est en face de toi, a spolié une terre qui m'appartient et qui appartenait à mon père, yani donc qui fait partie de l'héritage de mon père et qui me revient de droit. Celui qui venait de la province de Kinda, donc l'autre personne, a dit: non, c'est ma terre. C'est ma terre, elle est en ma possession actuellement, et je suis en train de la cultiver, et il n'a aucun droit dessus. Donc, ils se disputaient sur une terre. D'accord? Un a dit: cette terre fait partie de l'héritage de mon père. Et l'autre a dit: non, c'est pas vrai, c'est ma terre, je la cultive, et il n'a aucun droit dessus. C'est bon? C'est bon, ben? Pareil. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Al-Hadrami, celui de la province de Hadramaut, il a dit: as-tu une preuve? As-tu quelque chose, une preuve qui prouve que c'est bien ta terre ou celle de ton père dont tu as hérité? Il a dit: non, je n'ai pas de preuve. Alors le prophète, alayhi salatu salam, de lui dire: eh bien, tu as droit à son serment. Tu n'auras droit qu'à au serment de l'autre partie, qui prétend que c'est sa terre et non ta terre. Et qu'est-ce qu'il a dit donc? Celui qui prétendait que c'était la terre de son père, il a dit: ô messager d'Allah, l'homme, il y en a en parlant de celui qui vient de Kinda, l'homme est un fajr. Yani c'est quelqu'un qui ment lorsqu'il se dispute avec les gens et qui n'a aucun scrupule à mentir pour voler le bien des gens ou pour spolier le bien des gens, et qui n'a aucun scrupule à jurer même sur Allah en mentant. D'accord? Il a donc dit cela au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répété: tu n'auras droit qu'à cela, yani qu'au fait que la personne devra prêter serment. Donc si elle prête serment en disant que c'est bien sa terre et que tu n'as pas de preuves prouvant le contraire, eh bien, tu ne pourras pas continuer à te plaindre, et elle gardera la terre qu'elle a en sa possession. Donc la personne de la province de Kindah s'est mise à prêter serment. Et lorsque elle se tourna pour s'en aller, le prophète il a dit, celui qui a juré sur le bien de quelqu'un d'autre pour s'en accaparer injustement, donc il a fait un serment mensonger sur quelque chose qui n'est pas vrai, pour spolier et pour s'accaparer le bien de quelqu'un d'autre injustement, il rencontrera Allah. Et Allah, à ce moment-là, Yawm al-Qiyamah, se détournera de lui et sera en colère contre lui. Vous voyez? Donc le prophète de dire, dans tous les cas, même s'il a menti et qu'il a prêté serment en disant un mensonge, eh bien, ne pensez pas que son cas est quelque chose, son cas est, sera pas jugé, d'accord? Car Yawm al-Qiyamah, Allah tabarak wa ta'ala sera en colère contre lui et se détournera de cette personne-là. Le hadith rapporté par l'imam Muslim. C'est bon? Voilà. نعم. إذن مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما كالناقة أو الشاة والعباءة بيد المدعى عليه من زمن طويل ويدعيها المدعي فإن القرينة أنها للمدعى عليه لأن الناقة أو الشاة معه من الصغر والعباءة يلبسها من زمن طويل وهكذا. Donc on répète cette règle. Celui qui a en sa possession un objet et un objet sur lequel quelqu'un prétend que c'est à lui, mais qui n'a pas de preuve, eh bien, on jugera que cet objet est la propriété de la personne qui le possède à ce moment-là, après qu'elle ait prêté serment, et que le plaignant n'ait pas de preuve. N'ait pas de preuve. Taïe. Ça peut être un animal, ça peut être un chameau, un mouton, un agneau, un manteau, un habit, taïeb, sur lequel donc les deux parties se disputent. Donc si l'accusé a en sa possession ces choses-là depuis longtemps, par exemple, et que le plaignant prétend que c'est à lui, eh bien l'indice, l'indicateur fera pencher la balance en faveur de l'accusé. Pourquoi? Parce que la bête, mouton ou chameau, peu importe, est en sa possession depuis longtemps, depuis qu'ils sont bébés. Le manteau également, il est porté par lui depuis très longtemps. Wahakada. Donc si celui qui prétend que c'est à lui, non seulement il ne l'a pas en sa possession cet objet-là, et en plus il n'a pas de preuve, eh bien c'est celui qui l'aura entre ses mains, qui yani sera plus à même à ce qu'on dise de lui que c'est le vrai propriétaire après qu'il ait prêté serment. طيب. ومثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارة وحداد ونحوه بآلة حدادة ونحو ذلك وفي هذه الحالة آلة النجارة للنجار وآلة الحدادة للحداد عملا بالظاهر والقرينة. Autre exemple dans lequel on utilisera ce qu'on appelle al-qarina, les indices. Lorsqu'on a deux personnes, donc, qui prétendent l'une comme l'autre être le propriétaire d'un bien. Mais que ce bien-là, ce bien-là, yani, ne peut être utile qu'à l'une des deux personnes. Ne peut être utile qu'à l'une des deux personnes. Taïeb, comme par exemple, on a un menuisier, quelqu'un dont le métier est la menuiserie. la menuiserie ou la charpenterie. طيب. Et qui est en dispute avec quelqu'un qui n'est pas menuisier. Et il se dispute au sujet d'un bien qui fait partie des outils des menuisiers. D'accord? Comme une scie, par exemple. Il se dispute la possession d'une scie. Si tu en as un qui est menuisier, et donc la scie fait partie de ses outils de travail, et que l'autre n'est pas menuisier, et pour qui la scie n'est pas quelque chose dont il a obligatoirement besoin, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va juger? On va juger que la scie appartient au menuisier et pas à l'autre. Voyez? Et un autre exemple avec un forgeron. Donc on a un forgeron, quelqu'un qui n'est pas forgeron, et les deux se disputent la propriété d'un outil de forge ou de forgeage. D'accord? Et autre que cela, parmi les exemples. Naam. C'est compris ou pas? C'est clair. Taïeb. Alhamdulillah. وأمثلة أخرى أن يتداعى اثنان في آلة بناء وأحدهما بناء فهي لا ومثل أن يتداعى في آلة خياطة وأحدهما خياط فهي لا ويقاس على هذا ما يشابه. Autre exemple pour que l'on comprenne bien, deux personnes se disputent un outil, par exemple un outil de maçonnerie. Et tu as l'un des deux parties qui est maçon et l'autre non. Eh bien, on tranchera en faveur du maçon. Les deux parties se disputent sur des outils de couture. D'accord? Et tu as l'un des deux parties qui est couturier, justement. On tranchera à ce moment-là en faveur de qui? En faveur du couturier. Et autre que cela, parmi les exemples, walhamdulillah. طيب وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية فرض كفاية تحمل الشهادة هو السماع أو مشاهدة ما يشهد عليه وهو فرض كفاية لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا سورة البقرة. Puis dit l'auteur ici, rahimahullah ta'ala, et la responsabilité d'être le témoin de quelque chose concernant les droits des êtres humains. Il dit le shir, c'est une obligation collective. Une obligation collective. Donc, tahammul al-shahada, c'est le fait qu'on te désigne pour que tu écoutes un témoignage ou un contrat, une vente, une location, un mariage, ou pour que tu sois témoin visuellement d'un contrat, d'un mariage, d'une vente, et ainsi de suite. Cette mission est une obligation collective. Et cela en vertu de la parole d'Allah, tabarak wa ta'ala, dans le sens du ayah, Allah jalla wa ala, il dit, et que les témoins ne refusent pas de témoigner lorsqu'ils y sont appelés. Et que les témoins ne refusent pas de témoigner lorsqu'ils y sont appelés. Wa la ya'ba shuhada'u. Donc ceci est une obligation collective. Et qu'est-ce qu'on a aussi parmi les exemples? Min huquq al-adamin ka shahada ala dayn aw qard aw milk wa nahwihi. Donc le fait de témoigner ou d'attester d'un contrat de dette, d'emprunt, de propriété, d'achat et autres, comme on l'a déjà mentionné, alhamdulillah. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله والعلم عند الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.